cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Elisabeth Giuliani.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice adjointe du département de l'audiovisuel de la BNF. Peut-être que d'ailleurs vous pourrez peut-être nous expliquer un peu en quoi consiste votre mission. Mais en fait, on voulait vous rencontrer à Cobuzz pour évoquer un projet qui s'est transformé en coffret, 3 CD, publié par EMI Classics, qui s'intitule « Les urnes de l'opéra », presque un titre de film, presque, on dirait. Nous avons donc évidemment abordé ce projet, donc qui, en fait, ont été enfermés dans les sous-sols de l'opéra, dans des urnes scellées, il y a un tout petit peu plus d'un siècle, donc des enregistrements essentiellement d'opéra, de musique chantée, et qui ont donc été ouverts presque un siècle plus tard, et donc ils viennent d'être exhumés, édités aujourd'hui. Alors, pour revenir à ma question initiale, qu'est-ce que c'est qu'être directrice adjointe du département de l'audiovisuel de la BNF ?
Alors, directrice adjointe, ce n'est pas tellement cet aspect-là qui est le plus intéressant. Je parle plutôt du département de l'audiovisuel de la BNF. Donc, la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. Et le département de l'audiovisuel, comme la plupart des départements de cette institution, a en charge de recevoir, de traiter, de donner en consultation une partie du dépôt légal. Et là, en l'occurrence, c'est le dépôt légal d'une part des enregistrements sonores qui a été instauré dans la loi en 1938 et aussi de la vidéo, des documents électroniques et des documents multimédia. C'est notre, dans ce département, c'est notre domaine d'activité. Nous avons par ailleurs des collections anciennes, en particulier de documents sonores, puisque 1938, par rapport à l'histoire de l'édition phonographique, c'était bien 50 ans après son épanouissement. Donc nous avons, nos prédécesseurs et nous avons aussi la tâche de rassembler tout ce que l'édition phonographique a permis d'entendre en France depuis ses origines. Et il se trouve que parmi ces fonds anciens, il nous est arrivé une aventure, qui au départ n'était pas destinée à la Bibliothèque nationale qui ne conservait pas encore les instruments sonores à cette époque, mais à l'opéra. C'est donc la Gramophone, qui était une des sociétés qui éditait des disques au début du siècle, du XXe siècle, la Gramophone française, qui s'était fondée à Paris en 1899 et qui était une filiale du groupe qu'avait créé Émile Berliner. Lequel Émile Berliner est celui qui, dans l'histoire de l'invention du disque, a justement, lui, inventé le disque au sens propre, c'est-à-dire cette forme de support qui est plat, circulaire, bien sûr.
Il y avait le cylindre, en plus, déjà.
Il y avait le cylindre. À l'époque, Edison avait inventé, d'autres qu'Edison, mais Edison aussi, exploitait sous forme d'une édition d'enregistrement gravé. Donc, cette Gramophone, qui donc était une des grandes institutions, mais qui n'avait pas le monopole, loin de là, du marché, pour garantir sa réputation, a trouvé un moyen, c'était d'intéresser une institution musicale de prestige. L'Opéra de Paris, c'était l'institution musicale de prestige par excellence, l'intéresser à mettre en valeur ce nouvel objet musical qui était le disque. Et ça a été fait donc en 1907, où à l'Opéra, c'était le 24 décembre, une cérémonie très officielle a eu lieu. Elle avait été préparée, bien sûr. Et donc, on trouvait des personnalités politiques, des personnalités de la presse, des personnalités de la musique, et naturellement le président de la Gramophone, qui était Alfred Clark, le directeur des archives Musée de l'Opéra, qui était Charles Malherbe à l'époque. Et donc, ensemble, ils ont mis dans deux urnes, c'est-à-dire deux espèces de marmites qui étaient faites de plomb et de fer, ils ont mis dans chacune 12 disques. Et ces disques étaient choisis dans le fleuron du catalogue commercial de la gramophone. Et ce catalogue, à l'époque, était réputé aussi pour ses enregistrements de grandes voix d'opéra, puisque l'opéra, c'était d'abord un genre extrêmement prestigieux, extrêmement goûté, extrêmement fréquenté, et surtout, les chanteurs d'opéra étaient des artistes qui pouvaient les premiers se faire à ce nouveau mode d'expression musicale qu'était l'enregistrement et qui était encore à ses débuts, donc peu fidèle à l'ensemble du spectre sonore qui était susceptible de sortir d'instruments d'orchestre, par exemple. Donc les voix, c'était ce qui était le plus facile à enregistrer, et en particulier les voix des chanteurs d'opéra qui avaient la caractéristique d'être puissantes, solides. C'est-à-dire qu'à l'époque où la reproduction en nombre commençait, hein, Berliner a permis ça, parce qu'autrement on était obligé d'enregistrer autant de fois qu'on faisait de support. Là, ce n'était pas tout à fait le cas, mais néanmoins, on devait réenregistrer plusieurs fois pour pouvoir répondre aux besoins de matrice nécessaires à la diffusion d'un exemplaire de disque. Donc, il fallait des voix aussi vaillantes, mais également endurantes. Donc, les chanteurs d'opéra, c'était les meilleurs candidats à ces premiers exercices.
Est-ce que les documents permettent justement de comprendre cette démarche, c'est-à-dire pourquoi au moment donc de la captation, de l'enregistrement, qui était encore quelque chose de très jeune, il y avait cette volonté de se projeter quasiment en un siècle, de dire on va sceller pour le futur. Et d'ailleurs, vous nous raconterez, mais il y a une deuxième, des urnes ont été scellées avec d'autres enregistrements un petit peu plus tard.
Oui, en 1912. Alors oui, parce que le projet, c'était de faire cet acte de conservation au sens propre d'un patrimoine en constitution, à la fois technique et musical. Les deux aspects sont bien mis en exergue du procès-verbal de la cérémonie d'enfouissement. C'était donc de mettre régulièrement, chaque fois qu'il y avait qu'il se passait quelque chose dans l'histoire de l'enregistrement ou quelque chose dans l'histoire de l'interprétation, de faire de nouveau un dépôt pour avoir ce qui est devenu avec le dépôt légal, notre département, la Bibliothèque nationale. Donc, c'est vrai que le contexte est celui du progrès et de la foi dans le progrès scientifique et le progrès technologique. C'est le moment, et d'ailleurs ça a beaucoup ponctué les débuts de l'enregistrement sonore, c'est le moment des grandes expositions universelles, par exemple, celle de 1889, par exemple, pour laquelle on a inauguré la Tour Eiffel, puisque c'était le centenaire de la Révolution française. Sur cette Tour Eiffel a eu lieu une cérémonie où Edison a remis à Eiffel un de ses phonographes et des cylindres, et lesquels cylindres ont été enregistrés par Eiffel dans sa famille avec ses amis, et la collection est en dépôt chez nous aussi. C'était cette époque d'optimisme dans les facultés de la science à apporter ce que l'homme recherchait, c'est-à-dire de pouvoir étendre son espace, aller vite dans l'espace, mais aussi abolir les limites du temps aussi. Et donc c'est vrai que l'enregistrement sonore a fait et était encore ressenti comme une à la fois quelque chose de très technique et très scientifique, mais en même temps une merveille,
quelque chose de révolutionnaire dans l'histoire de la musique,
surnaturel presque, enfin un côté vraiment transcendant. Et alors il se mêle comme souvent à cette époque, peut-être encore toujours, à la fois une démarche scientifique assez positiviste. Et puis qui veut prendre date, faire des références, là, par exemple, on fait des croquis, on relève tout, il y a des témoins, il faut signer. Enfin, c'est quelque chose qui a un côté
très formel,
mais en même temps, on utilise cette mythologie un peu égyptienne de la momie. Bon, 2 ans après, il y a le fantôme de l'opéra qui est écrit par Gaston Leroux, qui d'ailleurs fait allusion à cette cérémonie d'enfouissement. Alors, je ne sais pas laquelle a profité de laquelle, mais enfin, c'est sûr que sous tout cet aspect, très dramatique, mélodramatique, je dirais, était aussi assez délibéré. Peut-être que ça paraissait moins énorme que de nos jours, parce que on n'a qu'à voir dans l'éloquence, dans la façon de parler, on était un tout petit peu plus hyperbolique que maintenant. Donc ça paraissait peut-être moins extravagant d'aller faire ce genre de cérémonie, mais ça va bien dans l'esthétique de l'époque, à la fois la croyance positiviste dans le progrès matériel, mais en même temps cette espèce de naïveté et de poésie de l'au-delà, on faisait tourner les tables, enfin tout cet aspect-là, spiritisme, etc.
Louis Feuillade aurait pu faire un film.
Oui, c'est tout à fait... Donc ça a aussi un aspect émouvant de ce fait-là.
Comment s'est fait la sélection des voix, des chanteurs que des compositeurs? Il y avait même des compositeurs encore vivants comme Gounod ou
Massenet. Donc en fait, la sélection, on ne sait pas, parce qu'on a retrouvé, grâce au dossier qui est à la bibliothèque de l'Opéra, puisqu'ils ont remis des documents, grâce aussi à la correspondance, enfin des archives EMI qui se trouvent à Londres, enfin à Hayes, on a pu un tout petit peu documenter cette opération, mais elle n'a pas laissé beaucoup d'archives, elle a laissé beaucoup de traces dans la presse de l'époque, mais en revanche, avant, on a quelques lettres. Et la sélection à proprement parler de pourquoi on a choisi cela et pas d'autres, on n'a rien d'absolument formel. En revanche, on connaît le catalogue disponible à l'époque. On constate que délibérément, on n'a pas mis de chansons, on n'a pas mis de musique de danse et de musique de genre, les batteries, les fanfares, le comique troupier, enfin des choses comme ça qui étaient présentes dans ce catalogue, et qu'on a joué absolument sur la partie classique et grand répertoire. Ça, c'est certain. À l'intérieur de ce répertoire, on a à la fois... Bon, il n'y a pas de choses... par exemple, Alfred Clark a pris l'initiative de faire enregistrer Marie Garden, la créatrice de Mélisande, dans Pélas et Mélisande, accompagnée par Claude Debussy. Donc, il y a des enregistrements en 1904 qui existent, qu'on aurait pu enfouir. Il ne les a pas enfouis. Donc, c'est pas très avant-gardiste, si je puis dire. Mais c'est pas non plus complètement passéiste. C'est assez, en fait, ce qui était sur scène sur les grands théâtres lyriques, à Paris, à Bruxelles, à La Scala, au Métropolitane. Donc il y a les Italiens, à part Bellini qui n'est pas présent, mais il y a les autres, Rossini, Verdi bien sûr, Donizetti et Puccini. Puccini, c'est assez. Lui, il est encore vivant. Verdi vient de mourir, il est mort qu'en 1901. Et puis on a bien sûr Saint-Saëns, Massenet, Gounod, Bizet. Et on a aussi des musiciens qu'on connaît plus tellement, Adolphe Adam, Ambroise Thomas. Enfin, on les connaît, on les retrouve un peu, mais enfin, ils étaient très présents aussi. Alors, ce qui est assez extraordinaire pour l'époque, c'est qu'ils ont quand même tenu à mettre un peu de musique instrumentale. Donc, on a un mouvement de symphonie de Beethoven, mais nécessairement joué uniquement par des instruments avant, sinon on n'aurait pas pu faire passer le son. Et on a aussi des pianistes virtuoses et des violonistes, donc Raoul Pugnot comme pianiste et Paderewski, et comme violoniste Jan Kubelik, le père de Raphaël, et puis Kreisler, Fritz Kreisler. Donc, c'était assez... c'était pour montrer quand même l'excellence, enfin, tout au moins comment le procédé arrivait à capter quand même les instruments. Puis c'était, mais c'était des célébrités. Alors, ce qui est intéressant dans le choix des interprètes, c'est qu'il y a les stars du moment.
Une génération en même temps, il y a plusieurs. Enfin,
mais il y a aussi ceux qui sont plus débutants et qui commencent une carrière dont on est à peu près sûr qu'elle sera prestigieuse, mais qui sont encore à leur début. Donc, quelqu'un comme Vigneault, par exemple, qui chante, un baryton qui chante Rigoletto, il était tout jeune, il commençait. Et puis, naturellement, on a Caruso, qui est celui qui est le plus représenté, Nelly Melba. Et puis, donc, l'enregistrement sonore est venu en son temps, et du coup, il y a eu un peu tard, on arrive toujours trop tard, et donc, ils ont essayé d'enregistrer les personnes qui. Enfin, ils ont regretté de ne pas avoir pu enregistrer la Malibran, par exemple, donc, ils ont enregistré ceux qui étaient encore vivants parmi les grandes voix du 19e siècle, qui restaient Adelina Patti. Donc on a Adelina Patti dans du Mozart, mais effectivement c'est une vieille dame, donc on voit que c'est une voix qui a été travaillée, mais c'est quand même pas l'Adelina Patti qui a fait rêver 30 ans plus tôt.
Juin de 1912, on recommence. Quelle était l'origine? Pourquoi cette volonté de deuxième tour?
Dès le départ, il pensait régulièrement, il disait tous les 5 ans, effectivement, ça correspond à 5 ans. Puis après, il y a eu la guerre de 14. Après, sans doute, il se trouve qu'Alfred Clark, qui est quand même beaucoup, à qui on doit beaucoup pour cette opération, lui-même, il est resté chez Gramophone, mais en 1931, c'est lui qui devient un des deux managers de IMAI, qui est créé avec la fusion de Columbia et de Pathé en France. Et donc, il a peut-être d'autres choses à faire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1932, ce qui n'était pas encore le service de communication, mais enfin qui jouait ce rôle de ce nouveau consortium IMAI, il rassemble un dossier de presse de ce qui s'était passé en 1907 et 1912. Donc c'est quelque chose quand même qui était connu et qui était resté dans les mémoires. Donc ça a été oublié ensuite jusqu'en 1989.
Alors juste avant de revenir à 89, techniquement, concrètement, donc ces urnes étaient enfouies, elles ont été mises sous terre, dans un placard, dans les coffres.
Elles ne sont pas sous terre, elles sont dans un sous-sol. Donc,
accessible.
Oui, enfin bon, c'était un lieu où on n'allait pas, normalement, à l'intérieur d'une pièce qui était fermée par une porte de fer. Il y a des étagères dans le mur, c'est fermé par une porte de fer, et sur cette porte de fer, il y a une plaque, comme il y a sur les urnes aussi, qui fait allusion très précisément au don d'Alfred Clark et de la Gramophone, la date, et voilà. Et donc, qui précise qu'il ne faut pas ouvrir la pièce avant, qu'il ne faut pas ouvrir la pièce. Il se trouve qu'on a été obligé de l'ouvrir en 1989 parce que, pour des raisons, des travaux il y avait des travaux dans le Palais Garnier, principalement d'ailleurs pour la salle de lecture de la bibliothèque. Donc, il a fallu revoir les circuits de climatisation qui se trouvait dans les sous-sols. Et l'administrateur général a demandé à ce qu'on ouvre cette porte. Alors, Martine Kahn, qui était à l'époque la directrice de la bibliothèque, a raconté, parce qu'on a... On a fait un colloque sur ces urnes à la fin décembre de l'année dernière. Elle a raconté qu'on a cherché à ouvrir cette porte. D'abord, il y a eu un cas de conscience. L'ouvre-t-on, ne l'ouvre-t-on pas?
On a décidé... Il y avait cette date, en fait, de se dire on l'ouvrira en 2007.
Alors, c'était dit 100 ans plus tard, mais on voit, quand on regarde le procès-verbal, qu'Alfred Clark autorise le ministre. Donc, à l'époque, c'était le ministre de l'Instruction publique et des cultes, Aristide Briand, mais le ministre a fait ouvrir quand il le jugera, s'il le juge nécessaire, quand il le jugera nécessaire. Alors, ce n'est pas le ministre, c'était l'administrateur général de l'Opéra, mais on a considéré qu'on pouvait le faire, c'était nécessaire. Et donc, le pass général ne marchait pas, donc il a fallu refaire une clé. Enfin, donc, cette porte avait quand même été, n'avait pas, semble-t-il, été ouverte depuis longtemps. Quand ils ont ouvert, ils se sont rendus compte tout de suite qu'il s'était passé des choses, parce qu'ils ont vu des débris de verre et des débris de... puis surtout, deux urnes éventrées, enfin, ouvertes comme avec un ouvre-boîte. En fait, ces deux urnes qui avaient été placées en 1912, l'une avec des disques, 12 disques qui ont disparu, et l'autre avec un phonographe. Puisque en 1907, ils n'avaient pas mis de phonographe, mais ils avaient mis à l'intérieur d'une des urnes un schéma expliquant comment régler l'appareil de lecture, et d'autre part des aiguilles en fer et une tête, enfin un diaphragme, pour pouvoir l'adapter à l'appareil. En 1912, ils avaient mis l'appareil complet, mais donc dans une urne plus grande, mais qui donc avait été vandalisée, et le phonographe a disparu, ainsi que 12 disques de 1912. Donc, voyant cela, ils ont décidé de mettre ces urnes dans un lieu plus sûr. Plus sûr, c'est-à-dire mieux contrôlé. C'est pas que c'était pas contrôlé, mais comme on n'y allait pas dans cet endroit, on s'est pas aperçu du problème avant plusieurs années. Tandis que là, qu'on les a confiés au département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale, puisque le département de l'audiovisuel... qui avait été constitué donc en 1938, enfin pas sous ce nom-là, mais la mission existait, avait donc la charge de conserver ce patrimoine sonore. Donc on les a conservés depuis, sans les ouvrir, et quand s'est approché 2007, on s'est rapproché de l'Opéra, à qui ces urnes avaient été confiées, pour leur demander s'ils étaient d'accord pour qu'on les ouvre. Ils étaient d'accord, et donc c'est comme ça qu'on a entrepris de les ouvrir. Et en entreprenant de les ouvrir, et en regardant de nouveau la documentation, on s'est aperçu, on a eu de forts doutes, qu'à l'intérieur du paquet qui avait été fait, parce que les disques ne sont pas comme ça dans l'urne, ils sont mis...
dans un ordre précis.
D'une part dans un ordre précis, puis surtout chaque galette, si je puis dire, chaque plaque de shellac, gomme-lac, est entreposée entre deux plaques de verre. Et il y a des petits tasseaux de verre qui sont disposés ça et là, enfin de façon irrégulière, pour pouvoir répartir le poids de façon égale. Oui. Et l'ensemble était emmailloté dans du tissu. Et ce tissu, en fait, est fait d'amiante. Donc, quand on a vu que, visiblement, un des atouts qu'ils avaient mis avec, c'était l'amiante, en 2007, enfin, l'amiante, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement... Donc, on voulait faire une ouverture publique, il n'en a pas été question, on n'a pas pu ouvrir en 2007, on a commencé donc à étudier le processus et surtout mettre en place les procédures que la loi exige, donc une société assermentée, la construction d'un local complètement hermétique, la formation de techniciens qui étaient à la fois restaurateurs et techniciens du Centre de recherche et de restauration des musées de France, mais qui pouvaient travailler dans un milieu un milieu amianté, c'est-à-dire avec des combinaisons, des gants, etc. Donc tout ça a pris un certain temps, et l'ouverture s'est faite en septembre 2008.
C'était un peu la suite du côté mystérieux, voilà, de la première cérémonie du début du siècle, finalement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le rapprochement des photos qui ont été faites en 1907, où on a vraiment l'impression, effectivement, qu'on est dans un film de feuillade. Enfin, c'est un peu moins terrifique, parce qu'ils sont... Mais un film, ça fait assez film muet. Et puis, quand on voit les photos qui ont été prises à l'intérieur de cet espace... aménagé, on se croirait dans 2001 Odyssée de l'espace. Dans les deux cas, ça fait très romanesque.
Est-ce que certains de ces enregistrements avaient déjà été publiés, c'est-à-dire d'autres exemplaires, ou quelle était la part d'inédit dans ce qui est sorti de ces urnes?
Je dirais que la part d'inédit... Ah bon, d'abord, ils ont tous été édités au sens propre, puisque c'est des disques du commerce qui étaient disponibles en 1907 qu'avait mis Alfred Clark, sauf un. Il y en a un, c'est un vrai inédit absolu. Il date de 1912. C'est un discours que Firmin Gémier a impressionné, comme il le dit lui-même dans son discours sur la cire. Enfin, c'est pas de la cire, c'est de la gomme lac. Et qui contient les propos qui, au lieu d'être lus, comme ça a été fait en 1907 encore, en direct par quelqu'un devant l'Assemblée, avait été enregistré à l'avance et donc a été on l'a fait écouter aux gens à partir d'un phonographe, et une fois que les gens l'ont écouté, on l'a pris du phonographe, on l'a mis dans une urne et on l'a enterré. Enfin, enterré, on l'a enfermé. Et donc, c'était un enregistrement qui n'avait plus été écouté depuis le mois de juin 1912. Et celui-là, personne ne l'avait entendu. On espérait qu'il existerait, on espérait que c'était pas dans la... Enfin, que c'était pas... Enfin, on a remercié le ciel, si je puis dire, que ce n'ait pas été dans l'urne qui avait été dévalisée, parce que non, c'était, ils ont eu le bon goût, si je puis dire, de prendre l'autre. Donc tous les 47 autres disques ont été édités en 1907, enfin entre 1905 et 1911, mais certains ont fait l'objet de rééditions déjà, parce que donc 1907-1912, c'est la période de l'enregistrement acoustique. À partir de 1925, arrive le micro, l'amplification et l'enregistrement électrique, et les éditeurs phonographiques font des reports. Enfin, ce qu'on a fait entre le 78 tours et le micro-sillon, puis le micro-sillon et le CD, on l'a fait entre l'enregistrement acoustique et l'enregistrement électrique. Donc, en particulier, les Caruso, les Melba. Alors, certains qui étaient encore vivants ont réenregistré les mêmes titres, des enregistrements complètement nouveaux, mais dans certains cas, c'était le cas de Caruso, bien, par exemple, on ne pouvait plus le faire enregistrer, donc on a transféré déjà. Donc il y a eu des rééditions, puis il y en a eu donc régulièrement, et c'est vrai que les enregistrements de Caruso ne sont pas des inédits. Ils figurent dans des rééditions de Caruso. Simplement, ce qui est la particularité de ces disques, c'est qu'ils étaient neufs. Et donc, on sait très bien qu'un des problèmes de ces disques anciens, c'est qu'ils ont servi ou que tout simplement ils ont été mis en contact avec de la poussière, ils ont été rayés. Donc souvent, ils marquent leur âge par une dégradation mécanique. Cela était absolument neuf. Néanmoins, on entend un bruit de fond parce que c'est la matière elle-même qui fait du bruit. Hein, donc, mais ils étaient neufs, ce qui est quand même pour les spécialistes de l'histoire de l'enregistrement, c'était quand même un échantillon particulièrement précieux. D'ailleurs, ils nous ont bien recommandé, ce qu'on a fait, de ne pas les lire tous, enfin ceux qui, d'en garder certains non lus avec la méthode classique, donc de contact d'une tête de lecture, et de les garder pour des procédés qui sont en voie de mise au point, mais qu'on a essayé, mais qui ne donnent pas encore des résultats sonores suffisamment bons. Ce sont des systèmes optiques où on photographie le signal et on numérise ce. Ou alors des systèmes de spectre de couleurs. Enfin, il y a trois systèmes qui sont actuellement à l'étude. Un en Suisse, un en France par l'INA et un troisième aux États-Unis. On les a essayés et ce sera peut-être encore un quatrième, mais on attend certains pour de ne les lire véritablement qu'avec ces procédés-là pour que la pureté, si je puis dire, du signal sonore, indépendamment du matériau, puisse être entendu. Ce qui ne sera pas forcément la façon la meilleure de les écouter, puisqu'on a fait l'expérience d'en écouter un dont on avait beaucoup d'autres exemplaires dans nos collections, enfin beaucoup, un certain nombre. C'était, ben c'est toujours, la procession de César Franck par Berthe Hoguès de Montalent. Ça vous montre qu'il y a des noms qui ne sont plus très très connus aujourd'hui. Et donc on a écouté avec... on a écouté l'enregistrement, on a fait le chemin inverse, on a remonté le temps. Donc on a fait écouter le fichier numérisé, haute définition, qui fait l'objet de la conservation. Donc on l'a entendu, on entend un résultat assez impressionnant. Ensuite on a écouté le disque, donc le disque de 1905 je crois. On l'a écouté avec un diamant, mais un appareil avec une tête légère, électrique. Donc on a entendu quelque chose qui était à peu près l'équivalent du fichier. Et puis après, on a fait l'expérience de l'écouter sur un phonographe, un gramophone, ça s'appelait gramophone, de 1907, avec la tête de lecture qui avait été, celle qui avait été mise dans l'urne et une des aiguilles qui a été mise dans l'urne. Et là, on a une toute autre expérience, c'est-à-dire effectivement, la partie instrumentale est une espèce de purée, on entend vaguement, mais en revanche, la voix devient beaucoup plus chaleureuse, et surtout, on a l'impression qu'on fait un gros plan sur elle. L'oreille, vraiment, tout est mis comme si c'était dans un cocon, et on l'entend beaucoup, enfin, avec une présence beaucoup plus importante. Et donc, cette expérience a été assez extraordinaire. Je crois qu'il faut la faire. On ne peut pas dire que... C'est-à-dire que ce qu'on estime être la qualité d'une audition, c'est aussi très historique. Donc,
Est-ce qu'on sait si cette aventure s'est produite dans d'autres pays ?
Alors, on a fait la recherche et on ne l'a pas finie. On a lancé, je ne dis pas des détectives, mais enfin, beaucoup de gens s'intéressent à cette question parce qu'en plus, à l'étranger, on s'est rendu compte que c'était connu aux États-Unis, dans les pays scandinaves, il y a quelques... Donc, on a deux traces, toujours la gramophone d'ailleurs, mais en Angleterre. D'une part, le même Alfred Clark avait suggéré à la gramophone anglaise de donner à le British Museum les matrices. Alors là, ce n'était plus la forme commercialisée, mais la matrice de certains disques qui intéressaient le British Museum dans le sens où c'était des grandes voix de l'Empire britannique, donc des grands acteurs et des hommes politiques. Donc il a fait ça en 1905 et il a refait ça, on ne sait pas trop à quelle date, mais jusque semble-t-il vers 1919. Enfin, pas lui tout le temps, mais la gramophone. Simplement, on le sait parce que le British Museum s'en est débarrassé. D'une part, certains les a pas acceptés, les a rendus en disant que ça ne les intéressait pas, que ce n'étaient pas des gens assez grands. Effectivement, c'est des hommes politiques qu'on connaît pas trop, mais enfin... Et puis, d'autre part, alors Alfred Clark n'est pas content. On le voit parce qu'il dit, c'est pour ça qu'en France, j'ai tenu absolument à ce qu'ils ne puissent pas les refuser. Ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas, mais ils ne m'en rendaient pas certain en estimant qu'ils n'étaient pas bons. Et puis, d'autre part, on sait parce que le British Museum, dans les années 30, s'est débarrassé de tous les enregistrements sonores qu'il avait eus et les a donnés à la British Library. J'ai dit années 30, je ne suis pas sûre de ce que je dis là, donc il faudra vérifier. Je fais peut-être une erreur. En tous les cas, nos collègues de la British Library, qui sont possesseurs de ce fonds, British Museum, sont allés regarder, et pour eux, il faut faire une enquête, parce que le British Museum, se désintéressant de cette... n'attachant pas un prix particulier à ce don, les a mélangés à tous les autres enregistrements qu'ils avaient, ce qui fait qu'ils savent que, ça fait partie de ce fonds, mais ils ne savent pas quels sont les disques précis qui ont été donnés pour cette opération par la Gramophone. Donc ils sont en train de le reconstituer, donc c'est un travail. On a un collègue qui était là d'ailleurs à Paris et qui s'est mis sur qui s'est mis sur l'affaire, et je pense qu'on aura des résultats. Donc il y a ça. Mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est justement une première tentative qui, s'étant soldée par un semi-échec, a permis à Alfred Clark de mieux travailler la seconde. Et puis, d'autre part, alors, il est dit que quand la Gramophone, toujours, a fait construire un nouveau siège social à Hayes, la première pièce, c'était en juin 1907, il y a eu une cérémonie de pose de première pierre. C'était Nelly Melba qui a mis le... Et elle a chanté. Et on a, en principe, mis cet enregistrement dans... le sous-sol, dans les fonds, ce qui est devenu les fondations de ce bâtiment. Donc, ils ont un peu cherché, ils n'ont pas trouvé. Et il se trouve que maintenant, le bâtiment n'a pas... Enfin, Amy est toujours, mais ça ne lui appartient plus depuis plusieurs années, et que le propriétaire ne veut absolument pas qu'on fasse des recherches qui risquent de mettre à mal la fondation du bâtiment. Mais donc, on n'a pas retrouvé ce disque, mais en principe, il devrait y être. Enfin, si on le trouve. Donc voilà, c'est la deuxième... expérience, mais c'est celle de l'opéra. Elle est, enfin, tout ce qu'ils ont décrit s'est avéré être exact.
Vous l'avez dit, en plus de la musique, il y avait aussi un aspect technique, puisqu'ont été mis dans ces urnes un gramophone, des aiguilles. Alors évidemment, si maintenant la conservation de nos jours des documents sonores est peut-être un petit peu plus aisée, est-ce qu'on serait tenté, alors l'archivage peut-être pas quantitativement, mais est-ce qu'on serait tenté de faire des expériences similaires en se disant, voilà, faisons des urnes aussi et ouvrons-les en 2109 ?
On est absolument tenté. D'ailleurs, si on ne l'avait pas été, tout le monde nous y aurait incité. Alors déjà, c'est pour ça que la première question que vous m'avez posée sur le travail à la Bibliothèque nationale était une question tout à fait en accord avec les urnes. C'est que recevoir le dépôt légal, c'est assurer sa conservation dans le temps, normalement sans limite. Donc on a déjà, pour tout ce qui paraît et qui est diffusé en France, en fait support, puis maintenant la loi nous donne la même obligation pour l'Internet, c'est une autre affaire encore, nous cherchons à le faire durer le plus longtemps possible, en principe tout le temps, et le signal et le support lui-même. Donc nous préservons des supports, et maintenant pour préserver le signal, surtout avec la multiplication des enregistrements qui sont d'origine numérique, nous passons par l'immigration régulière d'un format de fichier dans un autre, étant entendu qu'on prend toujours la résolution la plus large possible pour conserver le plus d'informations possible, et y compris de l'information nuisible, si je puis dire. On ne filtre rien, on garde tout, pour éventuellement après, pour faire des sous-produits qui, eux, seraient filtrés, mais la conservation se fait véritablement... la plus dense possible. Mais on conserve aussi les supports. Donc là, on a décidé de s'essayer à une opération analogue, sentant bien d'ailleurs qu'on aurait sans doute beaucoup, enfin que nos successeurs dans 100 ans auraient beaucoup plus de difficultés que nous en avons eu, à part ce problème d'amiante qui a été embêtant, mais qui nous permet quand même, on a quand même pu lire, quand on met un disque sur ces appareils, ça se lit tout à fait. Il faut faire attention, il faut surtout connaître, déterminer la vitesse de rotation, puisqu'elle n'était pas standardisée à l'époque. Enfin bon, c'est des choses qu'on arrive à faire, c'est de la mécanique assez simple. Avec les supports d'aujourd'hui, qui en partie sont d'ailleurs des modèles qui ne sont pas, qui sont propriétaires, qui ne sont pas absolument définis, décrits dans toutes leurs composantes, c'est un problème. Et puis, bon, le numérique, c'est à la fois le signal, mais aussi c'est la programmation, c'est la lecture, la représentation, enfin bon, l'encodage, le décodage. Donc, ça sera certainement plus difficile. Donc, il faut faire une documentation beaucoup plus bavarde. Puis laisser des appareils, mais aussi des normes, enfin tout ce qu'on peut faire. Mais on va le faire. Donc on a, la naïveté ou l'arrogance, de prétendre pouvoir nous-mêmes déterminer quels étaient les enregistrements qui seraient les enregistrements à faire durer 100 ans après nous. On s'est organisé pour d'une part demander à toutes les personnes qui ont participé et qui continuent à participer à cette opération de nous donner quelques enregistrements qu'ils aimeraient voir mis en réserve. Et puis on a commencé, ça sera sans doute disponible dans le courant de la semaine prochaine sur le site bnf.fr où il y a déjà une exposition virtuelle sur ces urnes. Une exposition qui s'appelle « Les voix ensevelies », de mettre un blog avec un bulletin de vote, si je puis dire, une urne virtuelle que pourront remplir les internautes. On a déterminé 7 grandes catégories. Donc la musique classique et l'opéra toujours, mais le jazz, la chanson française, le rock, les musiques du monde, les voix parlées, parce que c'est aussi quelque chose qui est très important, et j'en oublie une, je ne sais plus laquelle, mais on retrouvera, les musiques de films, parce que on compte sur les
boutons.
Oui. Pour qu'ils nous donnent des titres et des interprétations qu'ils veulent qu'on conserve. Donc, on relèvera, si je puis dire, les votes. On comptera les bulletins assez régulièrement pour qu'ils voient où on en est. Enfin, on ne donnera pas forcément les titres pour pas que les gens... ce n'est pas scientifique tellement. Hein, c'est plus... d'ici le mois de juillet, on arrêtera pour pouvoir prendre... Donc on a décidé d'enfouir 100 enregistrements des 100 dernières années pour les 100 prochaines.
Je crois que ce sont vos homologues de la Library of Congress aux États-Unis qui chaque année éditent une liste de titres qui sont aussi même des documents parlés, des discours politiques, des enregistrements, des chansons, parce que à chaque fois ce sont des enregistrements, pas des albums entiers, mais je ne sais plus l'appellation qu'ils donnent, mais un peu justement d'enregistrements historiques, mythiques à conserver. Voilà, exactement.
Donc ce n'est pas une démarche... c'est-à-dire que nous, on sait qu'on tient beaucoup à l'exhaustivité, le dépôt légal c'est exhaustif, on applique le même soin à tous les enregistrements qui sont déposés, puisqu'on ne peut jamais savoir, on peut avoir une idée, mais on ne peut jamais savoir paraît peu important à un moment donné, ne sera pas en fait ce qui est déterminant et significatif.
Donc Boulez ou Johnny Hallyday, même combat finalement.
Oui, ou même des gens, parce que les deux sont connus, mais même des gens, on pense que... Enfin, même combat, oui, pour ce qui est de la conservation,
aucun doute.
Pour nous, c'est ça qui est important. Mais faire cette opération, on a trouvé que c'était intéressant, puis surtout ce qui nous plaît aussi, c'est cet aspect, surtout en ce moment qu'on prédit la disparition des supports, et peut-être avec la disparition des supports, je ne dis pas la disparition de l'enregistrement sonore, parce que la musique à entendre, ça ne va pas disparaître, mais disons de cette spécificité, de cet art, de cette ingéniosité technique, de cette ambition artistique, qui a, depuis le début, animé les artisans de l'édition phonographique.
Quand on voit tous les efforts qui ont été faits, toute cette poétique qu'ils ont mis là-dedans, on se dit qu'il ne faut pas que ça disparaisse. Il faut qu'on garde dans l'enregistrement sonore, il y a certes le message musical, mais il y a aussi l'industrie humaine. Donc je pense que c'est cet aspect-là aussi qu'on apprécie dans l'opération d'Alfred Clark. C'est de voir certains étaient plutôt musiciens, d'autres venaient de l'imprimerie, d'autres de la photographie, des ingénieurs, et ils travaillaient, ils cherchaient, puis ils faisaient la publicité. C'est un côté très impressionnant et très émouvant. Et se dire que ça devient, qu'on s'en fiche, qu'on prend ça comme un lot au robinet. Enfin, c'est cet aspect-là qu'on voudrait.
C'est justement intéressant d'ouvrir que l'ouverture justement de ces urnes se passe au moment où, enfin, on parle de la matérialisation de la musique et on arrive au moment où c'est en pleine dématérialisation. Enfin,
c'est pas tellement la dématérialisation, c'est le fait qu'on se désintéresse du matériel. Que du moment qu'on a le résultat, on s'occupe pas de savoir. On aime autant que ce soit caché. Et nous, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les efforts et toute la chaîne qui permet d'arriver jusqu'à cette écoute. Et je crois que ça, c'est très important. Il faut qu'on en ait conscience aussi.
Bien, merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle histoire. Merci à vous.
Je vous en prie.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.